19e épisode. Sous peine de mort. Chapitre 1er. Un drame en une seconde. Vêtu d'un élégant complet de sport en flanelle bleue, le milliardaire Todd Marvel suivait d'un pas allègre la grande route qui va de Saint-Cloud à Ville-d'Avray après une longue promenade matinale dans les bois. Il regagnait la villa où il était installé depuis déjà 2 mois et qui se trouve à peu de distance de la fameuse propriété des Jardis, autrefois habitée par Balzac, puis par Gambetta. Absorbé dans ses pensées, le milliardaire avançait de la même allure égale et presque automatique sur le trottoir gazonné qui borde la route. Il allait atteindre les premières maisons de Ville-d'Avray quand une grande auto, une auto de course peinte en gris foncé, à l'avant effilée comme un obus, arriva du fond de l'horizon avec la vitesse d'un bolide. Ni voiture, ni tramway n'occupaient en ce moment la large chaussée. Todd Marvel, qui suivait le trottoir gazonné, ne se dérangea même pas. Sans méfiance, il demeurait immobile lorsque, tout à coup, de façon parfaitement intentionnelle de la part du chauffeur, l'énorme masse fonça sur lui. En une seconde, il se vit perdu. En ce bref instant, il comprit comme dans un éclair qu'il n'aurait pas le temps de se garer, que cette fois, ses ennemis triomphaient et que c'en était fait de lui. Mais dans cette même seconde, à l'instant précis où l'énorme masse arrivait sur lui, une poigne d'acier le rejeta brutalement sur le talus. Il était sauvé. Le formidable engin disparaissait déjà du côté de Saint-Cloud dans une brume de poussière. Le milliardaire, malgré toute sa bravoure, fut une longue minute avant de recouvrer son sang-froid. Il croyait encore sentir le contact du monstre d'acier qu'il avait frôlé dans un souffle d'ouragan. Ce ne fut que petit à petit que Todd Marvel se remit de l'effroyable secousse qui, dans la même seconde, l'avait pour ainsi dire tué et ramené à la vie, assassiné et ressuscité. Son cœur battait à coups précipités. Il éprouvait cette soif ardente, cette siccité de la bouche et de l'arrière-gorge qui est la conséquence des grandes frayeurs. D'ailleurs, la puissante volonté du détective milliardaire eut vite fait de dompter cette passagère faiblesse. « Oh, j'ai peur !» s'avoua-t-il à lui-même, loyalement. « Sans cet inconnu qui s'est trouvé là fort à propos, mais il faut avant tout que je remercie et que je récompense celui qui m'a sauvé. » L'homme, dont le geste vigoureux et rapide avait arraché Todd Marvel à la mort, se tenait à quelques pas de là dans une attitude respectueuse et semblait attendre que le rescapé lui adressât le premier la parole. Todd Marvel observa que son sauveur, un personnage corpulent au teint très coloré qui paraissait âgé d'une 30aine d'années, semblait très intimidé. Sa physionomie dénotait un mélange de malice et de bonhomie qui fit sourire le milliardaire. D'ailleurs, l'inconnu était vêtu, sans élégance, d'un vieux complet gris à carreaux, chaussé de gros souliers de fatigue et coiffé d'une casquette taillée dans la même étoffe que le complet. Todd Marvel, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire, parlait le français sans le plus léger accent. Il s'avança vers l'homme, la main tendue. « Monsieur, lui dit-il, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance pour votre courage et votre présence d'esprit. Sans vous, je n'existerais plus. » L'inconnu avait salué très bas. En même temps qu'il faisait disparaître dans sa poche une pipe de merisier qu'il était en train de bourrer. « Trop heureux, balbutia-t-il. Enchanté de vous avoir rendu ce petit service. » Sa face joufflue et rose se fendit jusqu'à ses vastes oreilles d'un sourire qui voulait être modeste en même temps qu'il baissait les yeux. « À quel diable d'individu ai-je affaire ?» se demanda Todd Marvel, très intéressé. « Mon cher monsieur, reprit-il à haute voix, « croyez que ma gratitude se manifestera envers vous de façon plus efficace que par de vains compliments. »« Vous ne me devez absolument rien, » répondit l'homme, en tournant d'un air embarrassé sa casquette à carreaux entre ses gros doigts noueux. « J'étais en service, puis c'est tellement naturel d'empêcher quelqu'un de se faire écraser. »« En service ? Que voulez-vous dire ?»« Dame, oui. Vous êtes bien le fameux milliardaire Todd Marvel. »« C'est exact, » murmura celui-ci, assez mécontent de voir son incognito deviné. « Et vous, qui êtes-vous ? » Auguste Poutinard, ancien artiste lyrique, pour le moment inspecteur de la sûreté. « Et sans doute chargé de m'espionner !» s'écria Todd Marvel avec une violence qu'il lui fut impossible de réprimer. « Vous n'y êtes pas, » répliqua l'inspecteur avec un bon sourire. « Mais là, pas du tout. Je suis simplement chargé par l'administration de veiller sur votre précieuse personne et de faire en sorte qu'il ne vous arrive rien de fâcheux tant que vous serez en France. » Le milliardaire se repentit du mouvement de colère et d'impatience qu'il avait eu. « Je viens d'avoir la preuve, » répondit-il, « que votre administration a fait un excellent choix. Permettez-moi de vous faire une question. Y a-t-il longtemps que vous jouez ainsi près de ma personne le rôle d'ange gardien ?»«
Depuis avant-hier. »
Tolmavol réfléchissait. « Je me demande, » murmura-t-il, « pour quelle raison l'administration française fait preuve à mon égard d'une telle sollicitude. Je n'en sais absolument rien. Je ne fais qu'exécuter les ordres que l'on me donne.
Mais votre opinion personnelle ?
Est-ce que je sais ? » fit le jovial policier avec un léger haussement d'épaule.
C'est peut-être l'ambassade des États-Unis qui est intervenue. Peut-être aussi des amis à vous, des amis qui ne veulent pas se faire connaître. Quoi qu'il en soit, je toucherai une jolie prime le jour où vous reprendrez le bateau sain et sauf pour retourner en Amérique.
Je crois qu'il ne me sera pas difficile de découvrir mes protecteurs inconnus. » Auguste Poutinard avait pris une mine effrayée.
« N'en faites rien, » supplia-t-il. « Vous m'exposeriez à perdre ma place si on apprenait en haut lieu que je vous ai fait connaître le rôle occulte que je suis chargé de jouer auprès de vous. J'ai réfléchi que, pour éviter tout malentendu, il valait mieux que vous soyez informé de ma véritable qualité. Mais c'est à la condition que vous me garderez le secret.
Soyez assuré de mon silence. Je vous ai trop de reconnaissance pour ne pas faire preuve de la plus entière discrétion. » Pendant cette conversation, Todd Marvel et son nouvel ami s'étaient engagés dans un sentier du bois où ils pourraient causer sans crainte d'être espionnés. Le milliardaire, à qui l'inspecteur Poutinard était devenu tout de suite sympathique, prenait un réel plaisir à le questionner sur les menus détails de sa vie privée. « Tel que vous me voyez, » expliqua le policier, avec la mélancolie d'un souverain détrôné, « j'ai eu de gros succès au café-concert. Mon nom a figuré en vedette sur l'affiche des Ambasses, de l'Eldo, de Bataclan et autres grandes scènes parisiennes. « Oui, monsieur, » continua-t-il, une flamme d'orgueil dans les yeux, « j'ai connu la gloire. Oh, si vous m'aviez vu dans mon répertoire, je brûlais les planches. La salle croulait sous les applaudissements. Ah, en ai-je reçu des bouquets et des billets doux et des invitations flatteuses. »
L'ex-cabotin soupira.
« Pourquoi donc ?» lui demanda Todd Marvel, qui tenait à grand-peine son sérieux. « N'avez-vous pas poursuivi une carrière aussi brillamment commencée ?»«
La maladie, monsieur. Une fluxion de poitrine compliquée d'une laryngite. Après 6 mois d'hôpital, je me suis trouvé sur le pavé, sans le sou, et j'avais perdu ma voix. J'avais maigri et on ne me trouvait plus drôle. Le public m'avait oublié. D'autres avaient pris ma place, et je n'avais plus d'engagement. Finalement, j'ai été trop heureux d'entrer dans l'administration où je ne suis pas trop malheureux. »
Le milliardaire avait tiré de sa poche un étui d'or curieusement incrusté d'émeraudes. « Voulez-vous accepter un cigare, monsieur Auguste ? » demanda-t-il.
« Merci beaucoup, mais si ça vous est égal, je préfère ma vieille pipe de merisier. La pipe, voyez-vous, il n'y a encore que ça de vrai. »
« Comme il vous plaira, » dit Todd Marvel en allumant avec une soigneuse lenteur un blond régalier à baguette d'or. Il tendit ensuite au policier le briquet dont il s'était servi, un bijou taillé dans une seule améthyste et rempli d'une essence parfumée. Auguste Poutinard venait de tirer de sa pipe une première bouffée et tenait encore le briquet lorsqu'un sifflement bizarre se fit entendre. Auguste jeta un cri de surprise autant que de frayeur. Pipe et briquet venaient de lui être brutalement arrachés. Effleurant l'épaule de Todd Marvel, un projectile silencieux avait réduit le briquet en miettes et coupé le tuyau de la pipe de merisier presque au ras des lèvres de son propriétaire consterné. Celui-ci demeurait à la même place, en proie à une indicible stupeur.
« Ah ça ! » bégaya-t-il. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»
Todd Marvel s'était jeté à terre.
« Faites comme moi, » dit-il au policier, « ou vous êtes un homme mort !»
Auguste se hâta d'obéir et s'étendit à plat ventre sur les feuilles sèches. Bien lui en prit. À la place qu'il occupait une seconde auparavant, les feuilles et les menues branches pleuvaient, fauchées à hauteur d'homme par la silencieuse mitraille. Todd Marvel avait rampé jusqu'aux racines d'un gros châtaignier, puis, se relevant rapidement, s'était glissé derrière le tronc de l'arbre. Ainsi abrité, il s'arma du Browning de gros calibre qui ne le quittait jamais et se mit à diriger un feu nourri dans la direction d'où partait le bizarre sifflement qui précédait chaque projectile. Promptement remis de sa surprise, le policier suivit cet exemple. Une minute s'écoula. Leur invisible ennemi avait cessé le feu. Dans l'épaisseur d'un fourré, il y eut un bruit de branches cassées. « Il est là !» cria Todd Malvaux. « Je crois que nous l'avons touché. Il faut le prendre mort ou vif !» Ils s'élancèrent, insoucieux du danger, et ils distinguèrent bientôt la maigre silhouette d'un homme de petite taille qui fuyait à travers les taillis. « Nous l'aurons !» répétait le milliardaire qui, très animé par cette chasse à l'homme, ne s'arrêtait que pour tirer sur le fuyard chaque fois qu'il croyait celui-ci à bonne portée. De minute en minute, l'homme perdait du terrain. Lorsque, arrivé à la lisière du bois, il sauta sur une bicyclette qu'il avait cachée dans le fossé en bordure de la grand-route et se mit à pédaler avec une énergie désespérée. « Je l'ai reconnu, » murmura le milliardaire avec dépit. « C'est petit Dad, un redoutable bandit. Et cette fois encore, il me glisse entre les doigts. » « Ce n'est pas encore certain. Je vais téléphoner à Saint-Cloud, à Sèvres. Donnez son signalement. Vous prendriez une peine inutile. Regardez. » À 500 mètres de là, petit Dad, abandonnant sa bicyclette, était en train de monter dans une auto qui semblait l'attendre. La voiture se remit aussitôt en marche et disparut bientôt en quatrième vitesse. Todd Marvel et l'inspecteur, assez vexés de cet échec, rentrèrent dans le bois et refirent en sens inverse le chemin qu'ils venaient de parcourir. Tous deux examinaient avec attention les buissons et les halliers. « Vous avez remarqué, » dit tout à coup l'inspecteur, « que l'auto que nous venons de voir n'est pas la même que celle qui a failli nous écraser. » « Parbleu !» fit le milliardaire. « L'une est une superbe voiture de course, l'autre une auto très légère qui peut aisément passer dans les chemins de traverse. Il est tout à fait inutile de chercher à savoir ce qu'elles sont devenues. » « Ce n'est pas mon avis. Si, par exemple, l'une d'entre elles avait eu une panne. » Todd Marvel eut un haussement d'épaule. « Je vois, monsieur Auguste, répondit-il, que vous ne vous faites aucune idée du genre d'ennemi auquel j'ai affaire. Pour éviter d'être poursuivis, ils abandonneront sans hésiter une voiture qui a pu leur coûter 20 ou 30 000 $. « Ils sont donc bien riches ?» s'écria l'inspecteur avec étonnement. « Très riches, de ce qu'ils volent. Je les connais d'ailleurs parfaitement et je vous fournirai sur leur compte tous les renseignements possibles. Permettez-moi de vous faire une question. Pourquoi vous en veulent-ils ? Précisément, c'est ce que je n'ai jamais pu savoir. Ils ont à coup sûr une raison majeure, un intérêt capital, à me faire disparaître ou, tout au moins, à entraver mes recherches. J'essaierai... Je doute fort que vous réussissiez, fit le milliardaire un peu sèchement. Cela dépend, répliqua l'ex-cabotin avec aplomb. Comme on dit chez nous, je ne suis peut-être pas si bête que je suis mal habillé. Todd Marvel ne put s'empêcher de sourire. Cette bonhomie un peu triviale le réjouissait infiniment. « Je vois, répondit-il en prenant une mine sérieuse, que vous avez une certaine confiance en vous. Nous allons voir si vraiment vous êtes un fin détective. Je vais vous mettre à l'épreuve. Ça va. Pourriez-vous me dire, par exemple, de quelle arme s'est servi Petit Dad tout à l'heure dans le bois pour tirer sur nous ?» Auguste Poutinard se gratta le front. « J'ai idée, fit-il au bout d'un instant, que ce pourrait bien être une fronde. Je ne suis pas un érudit, mais j'ai lu quelque part que, dans les armées romaines, il y avait des frondeurs baléares qui lançaient des projectiles de plomb, en forme d'olive, qui pesaient à peu près 1 kg. Vous pensez, quand on recevait ça sur le crâne ? Vous êtes un savant, monsieur Auguste, et votre explication n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas la vôtre, c'est-à-dire la bonne. Je crois, moi, que Petit Dad a employé un fusil à vent. C'est une arme dont la crosse est munie d'une pompe qui sert à comprimer l'air qui chasse ensuite la balle. Si ça avait été avec une fronde, les projectiles auraient été de plus gros calibre. Puis il y a ce sifflement caractéristique. « Je ne connais pas ça, » murmura Auguste un peu vexé. Les fusils à vent sont très anciens. Ils furent perfectionnés vers 1820 par un abbé italien, et les sociétés secrètes de Naples et de Sicile en firent un grand usage à cette époque. « Je crois que nous allons être fixés, » interrompit tout à coup le policier en se jetant à quatre pattes sous un buisson. « Voilà la chose. » Et il se releva l'instant d'après en brandissant une sorte de carabine d'aspect bizarre qui, de l'extrémité de la crosse à celle du canon, était recouverte d'une gaine de feutre grisâtre. Le canon, épais et court, était renflé à sa partie inférieure en forme d'œuf. Il n'y avait aucune apparence du chien
ni de gâchette. Ce ne fut qu'après 5 minutes d'un examen attentif que Todd Morvall découvrit un bouton d'ivoire, à peine visible, qui devait commander la détente. L'étrange carabine, en dépit de sa cuirasse de feutre, était si froide au toucher que le milliardaire dut la déposer contre un tronc d'arbre. Il se sentait les doigts gelés. Cette circonstance fut pour lui un trait de lumière. « Je me suis trompé aussi bien que vous, » dit-il à Auguste, ébahi. « Cette arme, une des plus dangereuses qui soit, est un modèle perfectionné du fusil à air liquide qu'un ingénieur suisse, Raoul Pictet, je crois, offrit de vendre à la France il y a 20 ans. L'air liquide produit un froid terrible en dépit de l'enveloppe de feutre, intérieurement doublée de cuir. On ne peut se servir de cette arme qu'à l'aide de gants spéciaux. « Comment ça fonctionne-t-il ? » demanda Auguste respectueusement. « C'est tout simple. L'air liquéfié, en revenant à son état naturel, produit un volume de gaz assez considérable pour chasser hors du canon un projectile, avec autant de violence que le ferait la déflagration de la poudre ordinaire, et cela sans l'inconvénient du bruit de la détonation. Il y a pourtant le sifflement. C'est peu de chose, mais il est presque impossible au constructeur d'éviter le bruit que fait la rentrée de l'air une fois le projectile sorti du canon. Todd Morvall consulta son chronomètre. « Midi et demi, murmura-t-il. Il est temps de rentrer. J'ai horreur d'être inexact. C'est une souffrance réelle pour moi d'attendre et de faire attendre les autres. » Le milliardaire avait pris le fusil à air liquide qu'il se proposait de démonter pour l'étudier en détail dans son laboratoire. Auguste Poutinard, la casquette à la main, l'air assez embarrassé, se préparait à prendre congé. « En voilà une affaire, murmura-t-il. Ça ne va pas être commode de faire un rapport. » « Vous ne ferez pas de rapport, » déclara Todd Morvall très nettement. « C'est impossible, je ne puis pas agir autrement. C'est mon devoir, c'est mon business, comme on dit chez vous. »« Votre rapport, c'est moi qui l'écrirai, » reprit Todd Morvall avec autorité. « Pas moyen, vous me feriez perdre ma situation. » « Monsieur Poutinard, je vais vous parler en toute franchise. Je vous crois un très honnête homme et j'ai en vous toute confiance. » Sensible au moindre éloge, l'ex-cabotin se rengorgea, la casquette sur le coin de l'oreille. Todd Morvall continua. « J'ai des raisons de croire que, dans votre administration, mes ennemis ont des complices, ou sinon, des complaisants, chèrement payés. Un rapport de vous renseignerait mes assassins de façon plus ou moins directe. Oh, »« Je n'avais pas pensé à ça, » fit Auguste naïvement. « C'est entendu, c'est vous qui ferez le rapport, mais vous me le montrerez. Naturellement, puisque c'est vous qui l'adresserez à qui de droit. S'il y a quelque chose qui vous déplaise, vous le changerez. Alors ça ira comme ça. » Tout en parlant, le milliardaire et son ange gardien étaient arrivés en face de la grille de la villa. Monsieur Auguste salua de nouveau d'une façon qu'il jugeait à la fois distinguée et gracieuse, comme il saluait son public naguère au Cafconce, quand les applaudissements avaient été particulièrement nourris. Todd Morvall souriait. Il venait d'ouvrir la grille. « Entrez donc, monsieur Auguste, » dit-il au policier. « Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous séparer comme cela. Il n'y a d'ailleurs aucune raison pour que vous me quittiez. « C'est que... vous êtes chargé de veiller sur moi. »« Bien sûr. Le moyen d'y réussir, c'est de rester à la villa. Vous aurez d'ailleurs toute liberté de me suivre quand je sortirai. » Et comme Auguste paraissait à la fois indécis et stupéfait. « Vous allez tout bonnement annoncer à vos chefs que, grâce à des prodiges d'habileté et de diplomatie, vous avez réussi à entrer à mon service sous un déguisement de... ce que vous voudrez, jardinier, maître d'hôtel, aide de cuisine. Ah, la cuisine, ça me va. Je ne dis pas la grande cuisine, comme vous autres milords de la haute êtes habitués à en déguster, mais les plats de famille, ça me connaît. Le ragoût de mouton, la matelote, le pot-au-feu. Ah, je vous ferai savourer un de ces pot-au-feu comme vous n'en avez certainement jamais goûté en Amérique. Eh bien, c'est entendu, répliqua Todd Morvall, qui depuis bien longtemps n'avait ri de si bon cœur. Vous voilà promu sous-chef. Nous verrons ce que vous savez faire. En appelant d'un geste le noir Peter David, qui sortait de l'aide de la villa où se trouvaient les communs. « Peter, » fit-il, « je te recommande tout spécialement Monsieur Auguste, un cuisinier français qui consent à nous accorder sa collaboration pour quelque temps. Veille à ce qu'il soit confortablement installé. » Puis, se tournant vers le policier, « Venez me trouver à 4 heures, » ajouta-t-il à voix basse. « Si vous voulez remplir de façon efficace la mission dont vous êtes chargé, il faut que nous causions longuement, et il est indispensable que je vous donne tous les renseignements possibles sur les ennemis qui s'acharnent après moi. » Et comme Auguste se retirait, enchanté de la tournure que prenaient les événements. Encore un mot, s'il vous plaît, dit-il au policier. Nous avons un compte à régler. Il est de toute équité que je vous indemnise de la perte de votre excellente pipe en merisier. La face illuminée d'un sourire béat, M. Auguste s'attendait à recevoir quelques princières gratifications. Un billet de 500 francs, par exemple, ou peut-être même 2000. Il fut un peu décontenancé lorsqu'il vit Todd Marvel tirer de sa poche un minuscule carnet, dont il déchira une page après y avoir griffonné quelques mots avec un stylographe. « Voilà, Monsieur Auguste, » lui dit gaiement le milliardaire en lui tendant le papier plié en deux. « Déjeunez de bon appétit, et ne manquez pas de venir me voir tantôt comme c'est convenu. » Todd Marvel avait disparu dans l'intérieur de la villa, que l'inspecteur demeurait encore à la même place. Son chèque à la main, littéralement stupéfié de la bonne fortune qui lui survenait. Curieux comme tous les Noirs, Peter David jeta un coup d'œil sur le chèque. « By Jove ! » s'écria-t-il. « 20 000 $ ! Ça fait une somme ! Et avec le change ?»« Combien ?» demanda Auguste en proie à une émotion qui le faisait tour à tour pâlir et rougir. « Cela fait, en monnaie française, à peu près 300 000 francs. » L'énonciation de ce chiffre eut le pouvoir d'arracher Auguste à sa stupeur. Brusquement, il se mit à exécuter une série de gambades de la plus haute fantaisie. Il lançait sa casquette en l'air et la rattrapait au grand amusement du noir. Enfin, il se calma. Auguste Poutinard n'est pas un mufle, déclara-t-il solennellement. Sous prétexte que je lui ai sauvé la vie, M. Todd Marvel vient d'assurer la tranquillité de ma vieillesse. Je ne me montrerai pas ingrat. Désormais, c'est entre lui et moi, à la vie et à la mort. Aujourd'hui même, je donne ma démission de la boîte et je consacre ma vie à défendre mon bienfaiteur. Je jure de ne le quitter que quand je l'aurai débarrassé de tous ses ennemis. On verra de quoi je suis capable. » Après de pareilles émotions, interrompit Peter David, vous devez avoir besoin d'un cordial. Que diriez-vous d'une coupe de vieux Porto ? Auguste accepta sans se faire prier, et les deux nouveaux camarades se dirigèrent bras dessous, du côté de l'office. Todd Marvel venait de gagner à sa cause un ami dévoué qui devait par la suite devenir pour lui un puissant auxiliaire. Chapitre 2. Les fantômes du passé. Depuis que l'innocence de sa fille Simone, injustement accusée de l'assassinat de son oncle, M. Beaudreuil, avait été victorieusement reconnue, M. Garçonnet était devenu un tout autre homme. Il n'était plus ni hargneux ni neurasthénique. Sa misanthropie, son humeur atrabilière, avaient, d'un jour à l'autre, fait place à la plus cordiale bienveillance, à un optimisme qui s'étendait à tout ce qui l'entourait. Il entrevoyait pour l'avenir, aux côtés de sa fille et de son futur gendre, une vieillesse heureuse, allégée de tous les soucis qui avaient lourdement pesé jusque-là sur son existence. On eût dit que le bonheur l'avait miraculeusement rajeuni. Sa petite taille s'était redressée, ses regards étaient plus vifs, et sa moustache blanche, soigneusement frisée, prenait des allures conquérantes. La villa même s'était complètement transformée sous l'active impulsion de Simone, assistée de la fidèle Rosalie. Les fenêtres, débarrassées de la taie poussiéreuse qui obstruait leurs vitres, arboraient des rideaux de couleur claire. Les vieux meubles, avec leur cuivre reluisant, étaient d'une propreté éblouissante. Et, dans toutes les pièces, de grands vases, remplis de fleurs fraîchement coupées, jetaient une note de jeunesse et de gaieté épanouie dans cet intérieur naguère si morose. Ce jour-là, après avoir déjeuné d'excellent appétit, sous une tonnelle du jardin en compagnie de Simone, M. Garçonnet avait regagné son cabinet de travail situé au premier étage. Pourvu d'un appareil téléphonique décoré de quelques beaux bronzes, cette pièce avait, comme le reste de la maison, perdu son aspect mélancolique. Les illustrés du jour, quelques livres nouveaux, s'étalaient sur un guéridon et un rayon de soleil caressait les dorures des vieux volumes dans la bibliothèque. Une fois seul, le vieillard prit dans un tiroir de son bureau un dossier assez volumineux, et il se plongea dans la lecture des pièces qu'il renfermait et qui paraissaient puissamment l'intéresser. Il était tellement absorbé que Rosalie dut frapper plusieurs fois à la porte du cabinet avant de réussir à se faire entendre. Enfin, M. Garçonnet lui cria d'entrer d'un ton plein d'impatience. « C'est le locataire de la villa, le milliardaire américain, qui demande à vous voir, » dit la jeune fille. « Très bien, je l'attendais. Faites-le entrer immédiatement. »
Monsieur Garçonnet referma son dossier et se leva pour aller au-devant de Todd Marvel, qui l'accueillit de façon beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus cordiale que lors de ses précédentes visites. « Ma fille et moi demeurons éternellement vos obligés, » déclara le vieillard d'une voix que l'émotion rendait tremblante. « Jamais nous ne pourrons nous acquitter envers vous. » « N'exagérons pas, » répondit courtoisement le milliardaire. « Je n'ai fait, dans la mesure de mes moyens, que d'aider à faire reconnaître une chose parfaitement évidente, l'innocence de Mademoiselle Simone. « N'essayez pas de diminuer le mérite de votre généreuse intervention. Sans vous, ma pauvre enfant était victime de la plus épouvantable des erreurs judiciaires. Ma seule façon de m'acquitter envers vous est de vous faire connaître, comme j'en ai pris l'engagement d'honneur, tout ce que je sais sur la mystérieuse tragédie qui vous préoccupe. Je vous l'ai dit, au cours d'une de nos précédentes conversations, je ne vous apprendrai peut-être pas grand-chose que vous ne sachiez déjà, mais il se peut qu'un détail auquel je n'ai pas, pour mon compte, attaché d'importance, vous mette sur la voie de la vérité. Quant aux menaces qui m'ont été adressées... » Todd Marvel et son hôte se regardèrent un instant les yeux dans les yeux, tous deux agités d'une secrète angoisse. « Depuis longtemps, reprit le vieillard après un silence, je n'ai reçu aucune nouvelle lettre anonyme. » Mais nulle menace, croyez-le bien, ne m'empêchera de remplir mon devoir à votre égard, de m'acquitter de ce que je regarde comme une dette sacrée. Il faudrait que je puisse savoir, murmura le milliardaire pensif, quels liens peuvent exister entre les bandits qui me persécutent, qui ce matin même ont deux fois failli me tuer, et l'auteur ou les auteurs du crime. Je sens que c'est là le nœud de l'énigme. Je vais d'abord vous révéler tout ce que je sais. « Je vous écoute, » dit Todd Marvel, en proie à une émotion qu'il essayait vainement de dominer. « Et ne craignez pas de me dire les choses telles qu'elles sont. » Il y a maintenant plus de 20 ans, lorsque votre père, Monsieur Dick Julius Marvel, vint en France, les affaires de ma famille étaient très embarrassées. Mon père, un architecte connu, venait de mourir, laissant de nombreuses dettes. J'avais été tout heureux de trouver un modeste emploi dans un ministère. Mon frère, joueur acharné, avait dû donner sa démission d'officier de marine et me causait, pour son avenir, les plus grandes inquiétudes. La situation était loin d'être brillante. Nous ne possédions pour toute fortune que les deux villas. Celle que vous habitez actuellement était demeurée inachevée, et les fonds nous manquaient pour la terminer. L'autre, celle qui fut le théâtre du drame et dont cette maison, celle où nous nous trouvons en ce moment même, occupe l'emplacement, était grevée d'hypothèques, et aucun locataire ne se présentait pour l'occuper. J'ignorais ces détails, balbutia le milliardaire. J'ai tenu à n'en omettre aucun parce qu'ils auront certainement pour vous leur importance. Mais je continue, reprit M. Garçonnet après avoir rapidement consulté le dossier placé devant lui. Au cercle qu'il fréquentait, mon frère fit la connaissance d'un riche américain qui, sur parole, lui avança une somme considérable et l'empêcha de subir la honte d'être affiché. Cet Américain se nommait Neville Rutland. Todd Marvel s'était levé frémissant. « Neville Rutland ? » balbutia-t-il. « L'assassin de mon père ? » « Du moins, celui qui a toujours passé pour tel, » reprit M. Garçonnet avec une certaine vivacité. « Ce fut lui qui me fit connaître M. Julius Marvel, qui, précisément, cherchait à louer une villa dans la banlieue parisienne. » Neville Rutland et votre père étaient intimes amis, associés dans diverses affaires et tous deux milliardaires. La location de la villa avait été payée d'avance pour 1 an, mais 1 mois s'était écoulé qu'elle n'était pas encore habitée. Ce temps avait été employé à mettre tout à neuf, à meubler somptueusement toutes les pièces, à y installer le téléphone, un calorifère, une salle de bain, que sais-je. C'est alors que se produisit l'horrible drame, l'inexplicable drame. Une nuit d'hiver, le feu se déclara dans cette maison déserte avec une soudaineté, une violence, qui ne permirent pas d'arriver assez à temps pour enrayer les progrès de l'incendie. Tout le monde croyait la maison inhabitée, et personne n'eût supposé que le fléau avait pu faire des victimes. Ce ne fut qu'en fouillant les décombres, qu'à côté d'ossements carbonisés, on découvrit des bijoux à demi fondus, des fragments d'étoffe, grâce auxquels on put identifier le cadavre de M. Julius Marvel. C'est en explorant moi-même, beaucoup plus tard, ces décombres, que j'ai trouvé ce médaillon que j'ai été trop heureux de vous offrir. » D'une pâleur mortelle, le milliardaire se taisait, faisant appel à tout son courage pour avoir la force d'entendre la fin de ses tragiques révélations. Après une hésitation qui prouvait combien elle lui était pénible, à lui-même, la tâche qu'il s'était imposée, M. Garçonnet continua. Le plus extraordinaire, c'est que M. Julius Marvel, le mois précédent, avait réalisé une moitié de son immense fortune. Dans quel but? On a parlé de 2 milliards. Et je sais qu'on n'a pas trouvé la moindre trace de ses valeurs. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'assassin présumé, Neville Rutland, avait lui aussi réalisé la majeure partie de son avoir, une somme presque égale. L'enquête, menée avec la plus grande discrétion à cause des personnalités mises en cause, a établi que le meurtrier n'avait aucun embarras d'argent. De plus, il était généralement estimé. Tous ceux qui le connaissaient ont refusé de croire à sa culpabilité. Très gai, très loyal, très généreux, il ne se connaissait pas d'ennemis. « Pas plus que mon père !» murmura mélancoliquement Todd Marvel. Plus j'avance dans mon enquête, plus tout ce qui se rattache à cette affaire me semble illogique et incompréhensible. Mais, somme toute, a-t-on des preuves de la culpabilité de Neville Rutland ? Des preuves accablantes, répondit M. Garçonnet avec un peu d'hésitation. On retrouva dans les décombres un revolver dont la crosse de nacre portait les initiales N.R. et que ses domestiques reconnurent pour avoir appartenu à Neville Rutland. Ensuite, sa fuite, sa disparition aussitôt le crime commis, la précaution qu'il avait prise de réaliser la plus grande partie de sa fortune, ce sont là des charges terribles. Cependant, objecta Todd Marvel, cédant à son habitude de la logique, la victime avait pris cette même précaution. C'est là justement que j'ai le mystère, mais il y a encore d'autres preuves convaincantes. Les employés de la gare de Ville-d'Avray ont parfaitement reconnu à son signalement Neville Rutland, qui est arrivé de Paris par un des trains du soir et qui est reparti par la même gare vers minuit, au moment même où la maison était en flammes. Enfin, un homme de peine a trouvé sur le quai de la gare un bouton de manchette en platine aux initiales du meurtrier et encore souillé de sang. Il en a été du bouton de manchette comme du revolver. Les domestiques de Rutland l'ont parfaitement reconnu comme appartenant à leur maître. Et ce n'est pas tout. Un maraîcher qui se rendait aux Halles a vu un malfaiteur escalader la grille de la villa. « Je n'ai pas voulu intervenir », a déclaré le témoin. « Je n'avais pas d'armes. Je craignais que les malfaiteurs ne fussent en nombre et d'ailleurs j'étais en retard. Dans une occasion pareille, le plus sage est souvent de passer son chemin. Pourtant, je me rappelle parfaitement que le cambrioleur, il faisait très froid cette nuit-là, était vêtu d'un superbe pardessus de fourrure, coiffé d'un feutre gris et portait des gants de couleur rougeâtre. Ces détails de costume correspondaient exactement au signalement fourni par les domestiques du meurtrier. Il me semble qu'après de pareilles preuves... « Je vous étonnerai peut-être, » interrompit brusquement Todd Marvel, « en vous disant que moi, je suis de moins en moins convaincu de la culpabilité de Rutland. » Après l'émotion qu'il avait éprouvée, au début des révélations de M. Garçonnet, le milliardaire redevenait détective. Son instinct de logicien le poussait à la contradiction, et comme son interlocuteur le regardait avec une réelle surprise. « Précisément, continua-t-il, c'est parce que je me trouve en présence de trop de preuves que je suis troublé dans la conviction que je m'étais faite tout d'abord d'après vous. On dirait que le criminel a accumulé comme un plaisir tous les gestes, tous les actes qui pouvaient prouver qu'il était coupable. Rien n'y manque, même pas le classique bouton de manchette perdu par le meurtrier. J'ai trop l'habitude de ces sortes d'affaires pour ne pas être mis en défiance par une série de témoignages, tous favorables à la thèse de l'accusation. Tous les renseignements que j'ai recueillis sur Neville Rutland me le montrent comme un homme très intelligent. Et s'il avait commis un crime, je ne crois pas qu'il eût agi aussi maladroitement. J'ai longtemps partagé cette façon de voir, répliqua le vieillard d'un ton grave. À cause du service rendu à mon frère, j'estimais Rutland et j'aurais voulu le trouver innocent. Malheureusement... « Il y a dans tout ceci, » interrompit le milliardaire, dont le front se barrait de rides sous l'effort de la réflexion, « un fait qui n'est pas clair. Est-il absolument certain que le corps trouvé dans les ruines fut celui de mon père ? Là-dessus, il n'y a aucun doute à conserver. En sortant de chez lui, il habitait un hôtel des Champs-Élysées, M. Julius Marvel avait eu soin de dire à ses domestiques
qu'il se rendait à Ville d'Avray, qu'il y avait un rendez-vous avec son ami Rutland, et qu'il rentrerait sans doute très tard. Je ne comprends plus. Une rencontre entre ces deux hommes, en pleine campagne, dans une maison déserte, ne s'expliquerait que d'une seule façon, par un duel à mort entre eux. Vous avez peut-être raison, balbutia M. Garçonnet, dont les hésitations devenaient plus marquées à mesure qu'il approchait de la fin du récit. Un détail que j'allais oublier. Deux jours après le crime, le juge d'instruction chargé de l'enquête reçut une lettre anonyme datée de Douvres, par laquelle on lui annonçait que l'assassin, muni de faux papiers, avait réussi à gagner l'Angleterre par Boulogne et qu'il se trouvait à Douvres, où il attendait le départ d'un paquebot pour l'Amérique. Des dépêches furent expédiées à Boulogne et à Douvres. On trouva sur le registre de police de divers hôtels le faux nom sous lequel, d'après les indications de la lettre anonyme, devait se cacher le meurtrier. Mais toutes les recherches faites pour le découvrir demeurèrent sans résultat. Neville Rutland et l'énorme capital dont il était porteur, près de 4 milliards, si l'on totalise les sommes réalisées le mois précédent par l'assassin et sa victime, avaient disparu, sans laisser de traces, comme s'ils se fussent évanouis en fumée. On n'a jamais su ce qu'était devenu Rutland. C'est en vain que l'argent a été dépensé à profusion, que des primes considérables ont été offertes, que les plus habiles détectives du monde entier ont été lancés sur la piste du meurtrier. Le résultat a été complètement négatif. Le mystère demeure entier. On n'a rien découvert, rien, absolument rien. Il est évident que la lettre anonyme qui indiquait si soigneusement le faux nom pris par l'assassin et les ports où il s'était embarqué avait été écrite par lui pour dépister les recherches. Cela ne me paraît pas douteux. Todd Marvel s'était levé et arpentait de long en large le cabinet de travail en proie à une agitation fébrile. « Il y a certainement dans cette affaire, murmura-t-il à demi-voix comme se parlant à lui-même, des éléments dont l'enquête n'a pas tenu compte. Il est impossible que les choses se soient passées comme on le raconte. J'ai la sensation très nette qu'un ou plusieurs complices, assez habiles pour n'éveiller aucun soupçon, ont, tout en demeurant prudemment dans l'ombre, tenu dans leurs mains tous les fils de l'intrigue de cette terrible tragédie. » Le milliardaire se tourna vers M. Garçonnet, dont l'attitude embarrassée montrait clairement avec quel soulagement il verrait arriver la fin de l'entrevue. « Vous avez parlé de milliards, » lui demanda-t-il. « N'a-t-on pas exagéré ? On m'a dit à moi que les sommes disparues n'étaient pas aussi considérables. » Ceux qui vous ont dit cela avaient un intérêt quelconque à vous tromper. Les chiffres que je vous ai donnés sont rigoureusement exacts. Je les tiens du juge d'instruction et j'ai eu sous les yeux le bordereau des valeurs disparues. « Est-ce là tout ce que vous savez ?» demanda Todd Marvel impérieusement, car derrière l'apparente franchise de M. Garçonnet, il avait cru deviner certaines réticences. « C'est à peu près tout, » répliqua le vieillard, très gêné de cette mise en demeure catégorique. « Il y a cependant quelques détails dont j'aimerais mieux ne pas vous parler, si vous les connaissez déjà. » « Vous faites sans doute allusion à ce qui concerne ma mère, Madame Alicia Marvel, » murmura le milliardaire non sans émotion. M. Garçonnet hocha la tête affirmativement. Je n'avais que 10 ans à l'époque du drame, et je ne me rappelle de ma mère que très vaguement, reprit Todd Marvel, dont la voix s'était altérée et dont les traits exprimaient une profonde tristesse. Tout ce que je sais, c'est qu'en apprenant le crime qui avait causé la mort de mon père, elle perdit la raison. Le soin de sa guérison, si toutefois une guérison était possible, fut confiée à un ami de mon père, un jeune aliéniste américain de grand savoir. Elle demeura quelque temps dans un château situé en Bretagne et où la famille l'avait installée. Puis elle disparut. On suppose qu'elle se noya dans l'étang qui se trouvait au centre de la propriété. Quant au médecin, il quitta le pays peu de temps après la disparition de sa cliente et, depuis, ni en Amérique, ni en Europe, personne n'a jamais eu de ces nouvelles. L'énigme d'un bout à l'autre est indéchiffrable. Je n'ai rien à ajouter aux renseignements que vous possédez. Todd Marvel regarda son interlocuteur bien en face. À l'expression contrainte de sa physionomie, il devinait que celui-ci ne lui disait pas toute la vérité. « Vous me cachez quelque chose, monsieur Garçonnet, » lui dit-il presque sévèrement. « C'est vrai. » balbutia le vieillard éperdu, incapable de dissimuler plus longtemps. « Mais c'est une chose que je ne puis pas vous dire, qu'il vaut mieux que vous ne sachiez pas. »«
Et pourquoi ?»«
Cela vous irriterait et vous affligerait, et cela ne vous avancerait pas à grand-chose dans votre enquête. »«
Non, vraiment, je ne puis pas. C'est plus fort que moi. »
Vous êtes engagé d'honneur à ne me rien cacher, reprit gravement le milliardaire.
Parlez, je suis prête à tout entendre.
Même s'il s'agit d'un fait injurieux pour la mémoire de votre mère, vous ne me pardonneriez jamais de vous avoir dit cela.
Une injure à la mémoire de ma mère ne peut être qu'une calomnie, répondit Todd Marvel avec une dignité et une simplicité qui firent impression sur le vieux bureaucrate.
Parlez, je vous écoute.
Au cours de l'enquête, répondit M. Garçonnet d'une voix basse et tremblante, on découvrit dans les papiers de Neville Rutland une lettre par laquelle Mme Alicia lui donnait rendez-vous dans la maison de Ville d'Avray à l'heure même où le crime a été commis.
Todd Marvel était devenu livide.
« C'est une infamie !» balbutia-t-il d'une voix étranglée.
« Ce ne peut pas être vrai. Taisez-vous, je ne veux pas en entendre davantage. »
Son interlocuteur, sincèrement apitoyé, le regardait en hochant la tête.
« Je vous avais prévenu, lui dit-il doucement.
Vous m'avez forcé à vous dire la vérité.
Je regrette maintenant d'avoir parlé. »
Mais déjà Todd Marvel s'était ressaisi.
« La vérité, si cruelle qu'elle soit, est préférable à l'incertitude, » s'écria-t-il farouchement.
« Laissez-moi vous faire encore une question. Puisque j'ai entrepris d'élucider cet effroyable mystère, j'irai jusqu'au bout. Ma mère est-elle allée à ce rendez-vous? Aurait-elle assisté au crime? En aurait-elle été complice? Il faut que je sache tout.
Vous allez trop loin, répondit le vieillard qui, depuis qu'il avait été jusqu'au bout de ses révélations, avait recouvré tout son calme.
Madame Alicia a passé toute cette nuit tragique en son hôtel des Champs-Élysées. Elle n'est pas sortie de la soirée. De nombreux témoins l'ont attesté.
Todd Marvel se sentit allégé d'un poids énorme.
« Vous voyez bien, s'écria-t-il, ce n'est pas elle qui avait écrit la lettre, j'en suis sûr. »
Maintenant, le milliardaire demeurait silencieux. Le corps ployé en deux, les poings aux tempes, il était plongé dans un abîme de réflexion. 5 longues minutes s'écoulèrent sans qu'il prononçât une parole. Monsieur Garçonnet, que cette attitude inquiétait déjà, fut le premier à renouer l'entretien.
« J'ai oublié, dit-il, un fait très important et que j'ai connu, d'ailleurs, que longtemps après la clôture de l'enquête officielle. Des gens du pays, des personnes dignes de foi, m'ont affirmé avoir vu une auto stationner une partie de la soirée dans un chemin creux à quelque distance de la maison du crime. Et cette auto n'est repartie, d'ailleurs à une vitesse folle, que lorsque le feu commençait à flamber de façon à ne pouvoir être éteint.
« Pourquoi donc ?» demanda Todd Marvel avec impatience. « Les témoins dont vous me parlez n'ont-ils pas été faire leur déposition, magistrat enquêteur ?»
Monsieur Garçonnet eut un faible sourire.
« Les gens de la campagne, expliqua-t-il, et même ceux de la banlieue, ont une peur effroyable de la justice. L'idée d'aller perdre à Paris une journée ou deux, d'être torturé par les questions captieuses d'un juge d'instruction, si malin qu'il fait parfois avouer aux gens un crime qu'ils n'ont pas commis, ne leur sourit d'aucune manière. » Surtout quand il s'agit d'une affaire qui ne les regarde pas, où leur intérêt direct n'est pas en jeu.
J'ajoute que dans le cas qui nous occupe, le coupable était découvert, l'affaire parfaitement nette aux yeux de la justice. Pourquoi aurait-il essayé de compliquer les choses en apportant un témoignage à leurs yeux dénué de toute importance, parfaitement oiseux?
Monsieur Garçonnet s'interrompit brusquement. La sonnerie du téléphone placée sur le bureau se faisait entendre.
« Vous permettez ?» dit-il courtoisement au milliardaire. « Une seconde et je suis à vous. »
Il avait déjà saisi le récepteur et criait dans le cornet d'ébonite. « Allô ? Allô ? Ici Monsieur Garçonnet ! Qui êtes-vous ? »
Ce fut tout ce que Todd Marvel entendit de la communication. Les récepteurs collés aux oreilles, le vieux bureaucrate écoutait avec une intensité d'attention qui ressemblait à de l'anxiété. Mais bientôt, une expression d'épouvante se refléta dans ses yeux ternes, contracta sa face amaigrie, ses mains aussi sèches que celles d'une momie furent agitées d'un tremblement. Tout à coup,
Il jeta un cri pareil à un râle en lâchant les récepteurs qui retombèrent bruyamment sur le bureau. Ses bras battirent l'air d'un geste d'agonie et il s'affala comme une masse inerte, évanoui, peut-être mort, sur les paperasses placées en face de lui. Le cœur serré par l'angoisse, Todd Marvel, dont l'esprit intuitif avait deviné une part de la vérité, s'était élancé vers le téléphone et s'en était emparé. Il eut beau écouter, rappeler, le mystérieux correspondant de M. Garçonnet, ayant sans doute compris que sa communication avait eu sur le vieillard tout l'effet qu'il en attendait, s'était empressé de raccrocher le récepteur. Quelques secondes avaient suffi au milliardaire pour s'en apercevoir. Il se reprochait déjà comme un acte d'un monstrueux égoïsme de n'avoir pas tout d'abord volé au secours du vieillard. Et ce fut avec une profonde satisfaction qu'il constata que celui-ci était simplement évanoui. Todd Marvel approcha des narines du malade le flacon de Lavender Scholes qui ne le quittait jamais. Et l'énergique révulsif eut pour effet immédiat de ranimer M. Garçonnet. Il ouvrit les yeux, mais en reconnaissant Todd Marvel, il les referma presque aussitôt avec la même expression d'épouvante qu'il avait eue avant de perdre connaissance. Le milliardaire, qui s'expliquait le secret de cette subite répulsion que le vieux bureaucrate semblait éprouver pour lui, s'empressa de sonner, d'appeler. Simone et la fidèle Rosalie accoururent. En quelques mots, elles furent mises au courant du tragique incident. Elles transportèrent le vieillard dans sa chambre à coucher, l'étendirent sur son lit et lui prodiguèrent tous les soins usités en pareil cas. Douloureusement affecté, Todd Marvel était demeuré dans le cabinet de travail. Simone ne tarda pas à venir l'y rejoindre. Elle paraissait très calme, très rassurée, presque souriante. Son visage, au trait régulier, mais au premier aspect un peu quelconque, malgré les bandeaux d'une opulente chevelure d'un blond pâle qui l'encadrait, apparaissait en ce moment comme illuminé par une énergie passionnée. Simone, dans cette minute, n'était plus insignifiante, comme l'avait dit son avocat. Elle était admirablement belle. Ses yeux couleur d'azur, de la nuance pâlie des fleurs du lin, brillaient d'un généreux enthousiasme. Elle semblait transfigurée. « J'ai craint un instant, dit-elle, que mon père n'eût été frappé d'une attaque d'apoplexie. Il n'en est rien, heureusement. Il s'agit d'une simple syncope et maintenant il va tout à fait bien. Vous me délivrez d'un remords. Je suis sûre que je suis pour beaucoup de raisons la cause de cette subite indisposition. Vous ne vous trompez pas. » murmura la jeune fille à voix basse, d'une voix à peine perceptible à l'oreille du milliardaire. Nos ennemis communs, qui peut-être, je ne sais comment, ont surpris une partie de votre conversation, ont fait à mon père de telles menaces qu'il ne vous dira sans doute plus rien. Il faut croire que c'était terrible, puisqu'il s'est évanoui. Il vous a, d'ailleurs, appris tout ce qu'il savait, ajouta-t-elle après un moment de silence. Je ne sais pas trop, répondit le milliardaire, parlant lui aussi tout bas. Il hésitait, il avait commencé une phrase qu'il n'a pas pu terminer. Simone mit un doigt sur ses lèvres. Elle entraîna rapidement le milliardaire hors de la pièce. Ils descendirent, sortirent de la villa. D'un geste plein d'autorité, elle lui avait pris le bras. Elle le conduisit jusqu'au fond du jardin, sous un bosquet de sureaux et de sorbiers, complètement isolés et où nul ne pouvait les entendre. « On cherche à intimider mon père, » dit-elle, non sans avoir inspecté les alentours avec méfiance. « Vous avez affaire à des adversaires redoutables qui en veulent à votre vie. Ils connaissent heure par heure toutes vos démarches. Je le sais, mais je ne voudrais que pour rien au monde il vous arrive à malheur à vous ou à votre père parce que vous avez essayé de m'être utile. Ne vous occupez pas de moi, je suis de taille à me défendre. Je n'abandonnerai votre cause d'aucune façon, » s'écria Simone avec une vivacité et une chaleur dont le milliardaire fut profondément touché. Vous m'avez arraché au déshonneur et peut-être à l'échafaud. Je suis tout à vous, quels que soient les ennemis qui vous menacent. Vous ne pouvez malheureusement pas grand-chose, murmura le milliardaire en prenant avec émotion la main de la jeune fille. Plus que vous ne croyez. Mon père, autrefois, nous a tellement parlé de cette affaire qui était pour lui une sorte de cauchemar et qu'il croyait bien oublier, que je puis peut-être compléter les renseignements qu'il vous a donnés. Todd Marvel regardait la vaillante jeune fille avec admiration. Quel dommage, grommela-t-il, que vous ne soyez pas américaine. Ça ne fait rien, reprit-elle en souriant. Les américaines sont très bien, mais il faut tout de même tenir un peu en compte des françaises. Le milliardaire
s'inclina avec un salut de hostile. J'ai hâte d'en finir, reprit Simone en jetant un regard anxieux du côté de la villa. Il me tarde de rejoindre mon père. Nos ennemis communs lui ont adressé de telles menaces qu'il a perdu connaissance et j'ai des raisons de croire, d'après les quelques mots qu'il a balbutiés en se réveillant, que ces menaces s'adressaient spécialement à moi. Je ne comprends plus. Vous allez comprendre. On sait que mon père, arrivé au seuil de la vieillesse, désenchanté de la vie, ne tient plus à grand-chose, sauf à sa fille. C'est par l'intense désir de me savoir heureuse avant de disparaître qu'il est encore vivant. Un de vos grands poètes américains n'a-t-il pas dit « Nous ne succombons à la mort que par l'infirmité de notre pauvre volonté. » « Vous connaissez Edgar Poe ?» demanda Todd Marvel avec une certaine surprise. « Comme tout le monde, il y en a des traductions à 10 sous. Nous avons en France tous les défauts que l'on voudra, mais nous aimons la belle littérature, à quelque pays qu'elle appartienne. » Tom Marvel, tout à fait charmé, écoutait la jeune fille avec un véritable ravissement. « Revenons aux choses sérieuses, » reprit-elle. Et ses regards se tournaient anxieusement vers les fenêtres de la villa. « Ce que mon père n'a pas eu le temps de vous dire, ce qui n'osera peut-être plus maintenant jamais vous dire, c'est que la personne qui détient une partie du grand secret est l'ancienne femme de chambre de Madame Alicia Marvel. « Elle se nomme ?» demanda Tom Marvel, pantelant d'angoisse et de curiosité. « Madame Justice Huvon, voici son adresse à Saint-Mandé, rue du Lac, 207. C'est en bordure du bois. Je vous quitte. Vous savez l'essentiel, au moins tout ce que je connais. » Avant que Todd Marvel eût eu le temps de lui poser d'autres questions, Simone avait disparu. Le milliardaire rentra lentement chez lui. Il se trouvait en présence d'une énigme plus complexe que toutes celles qui lui avaient été données de résoudre.